bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Original, oui, soyez les bienvenus avec Leïla Kadhafi.
Bonjour à tous.
Yael Mora.
Bonjour Maggie.
Alexis Le Rossignol. Tandy Pastureau sera là tout à l'heure. Et notre invité, Monsieur Guillaume Gallienne.
Bravo.
Bravo Guillaume.
De la comédie française.
Oui. De France Inter.
Ouais.
Il faut finir.
De mon cœur.
Carrément.
Bah oui, Guillaume.
J'ai bien fait de venir.
C'est de l'outing. Partout où vous allez, quoi que vous fassiez, on dit de la comédie française.
Non,
à la boulangerie,
chez vous, par exemple.
Non, uniquement quand l'image, quand il y a mon image.
D'accord.
Si c'est ma voix, par exemple, on ne le dit pas sur, dans mon émission.
Ah oui, mais regardez, il y a des caméras partout maintenant. Vous êtes piégés à la radio, vous savez bien.
Tous les samedis à 18h.
Tout est filmé.
Pour l'émission, quand même.
Exactement.
Ça ne peut pas faire de mal.
Il faut m'expliquer pourquoi il y a cette faute de français.
Alors, il se trouve que quand Philippe Val m'a invité à rejoindre l'antenne, je lui ai dit mais pourquoi faire ? Il me dit ce que vous voulez. Bon, d'accord. On est arrivé à l'idée d'une émission sur la lecture où je lirais les textes que j'aime. Et puis on a essayé de chercher un titre et toutes les idées que j'avais, à chaque fois le service juridique disait ben non, c'est une émission sur France 3 il y a 22 ans. Enfin, bon,
et le titre appartient à Thierry Ardisson. On peut pas.
Voilà, exactement. Donc je ne pouvais jamais.
Il y en a plus que
ça marchait pas. Et la semaine qui précédait le début de l'antenne, on m'a demandé de promouvoir l'émission, mais j'avais toujours pas le titre et j'ai dit bah voilà, bah tous
donc
les samedis.
Donc en fait vous avez fait la bande annonce sans savoir.
Et en faisant la bande annonce, j'ai dit bah voilà, tous les samedis, je vais vous lire des textes que j'aime. Bon bah voilà, un peu de littérature, ça peut pas faire de mal.
Génial.
Et donc, en sortant, vous avez commis la faute qui est devenue un titre, Guillaume.
Ouais, un truc de dingue.
Et ça voilà. Tient à rien.
C'est pas une grosse faute, c'est une élision, on le dit.
Absolument,
on dit de plus
élision.
En plus. Ouais.
Ouais, ça peut pas.
C'est toléré.
Oui, c'est toléré.
À l'oral.
C'est une licence poétique.
On va dire ça.
Si ça porte un nom. C'est toléré, en fait, si on l'a appelé Élysion. De fait, non ?
Oui, mais ça, pour autant, ça ne veut pas dire que grammaticalement,
oui,
ce soit correct.
C'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Tu vois, le racisme, ça porte un nom. Ça ne veut pas dire que c'est toléré pour autant.
Non, bah, alors, on va pas aller jusque-là.
Ok, wow. D'accord.
Le racisme est interdit.
Allez. Ah ouais, c'est la bande originale. Question concernant la vie et l'œuvre de Guillaume Gallienne, pour savoir si vous avez bossé un tout petit peu. Un endroit où Guillaume Gallienne se sent particulièrement à l'aise.
Sur scène. Sur scène, en train de danser.
En Normandie, il faut m'expliquer pourquoi.
Non, là, je sais pas, c'est géographique ou c'est...
Non, c'est un lieu.
Dans son lit.
Non.
Chez lui.
Non.
Cuisine.
Non.
Sur les planches.
Non.
Dans le métro.
Non.
Ici, à la radio.
Exactement.
Ah oui.
Enfin, c'est ce que vous avez dit en interview.
Non, mais c'est vrai, en studio, j'adore le studio.
Oui, le studio radio, c'est l'endroit où je me sens le mieux au monde.
Oui, c'est vrai. Le studio en général, parce que c'est l'endroit où on a le droit, de se planter, on a le droit d'essayer, on a le droit... Et puis tout le monde a le même prisme. On écoute tous la même chose.
On n'a pas le droit de se planter.
Ouais, vous n'avez pas le même patron que
mais
nous.
Mais si, mais parce que...
En direct,
non, mais... non, mais c'est que je ne suis pas en direct,
bah oui.
Moi. Je le suis rarement, je ne suis qu'une fois par an.
D'accord.
Donc, c'est pour ça.
Qu'est-ce que son papa lui a offert pour ses 16 ans ?
Une moto.
Une montre ?
Non.
Un bijou ?
Un livre ?
Non.
Un revolver ?
Bon, c'est compliqué ça, il trouve.
Bah non,
jamais.
Mais laisse !
Bon, d'accord.
Des chaussures.
Non.
Un voyage.
C'est artistique.
Ah, un tableau.
Oui. Un pinceau. Une toile.
Alors, il y a une part. Oui, il y a eu un déplacement pour.
Ah, pour aller voir quelque
un
chose.
Opéra. Un musée.
Non.
Ou pour aller
opéra.
Voir de la danse.
Oui. Exactement.
C'était pas pour aller voir.
Sylvie Guillem.
Sicile impératrice, Sylvie
ouais,
Guillem.
Ouais, ouais, exactement. Et déjeuner dans un très très bon restaurant, les deux.
Apparemment, c'est le package qui vous a plu.
Non, mais
c'était
mon père,
voyage, spectacle, dîner.
Non, mais mon père avait hein. Énormément de passion et la plupart, je pouvais pas y adhérer parce que c'était du sport. Il faisait le Cap Horn tous les ans, j'ai mal de mer. Il montait à cheval, j'ai peur des chevaux. Enfin voilà. Et en revanche, il m'a emmené pour mes 16 ans déjeuner dans un sublime grand restaurant à Crissier et ensuite aller voir Sylvie Guillem et ces deux passions qu'il avait qui étaient la gastronomie et la danse, j'ai réussi à, voilà,
à les conjuguer.
Oui, exactement.
Très bien. Pourquoi enfant Guillaume Gallienne a-t-il arrêté de lire des livres entre 11 et 13 ans ? C'était chaque fois un mardi. Non, je blague.
Problème de vue.
Guillaume, regarde. Comment tu sais ? Non, je sais pas.
Un problème de vue ?
Non.
Il s'est passionné pour autre chose.
Il avait un sport.
Ça le rendait triste. Il voulait.
Alors oui, il y a eu quelques.
De l'effet de la littérature sur sa vie.
Non, quelque chose l'a gêné. Ah. Oui.
C'est que ça l'a bloqué lui-même dans sa créativité.
Alors c'est pas lui que ça a bloqué entre 11 et 13 ans. Il s'est pas bloqué lui-même.
par rapport aux amours, aux amis, aux amis, aux copains.
Il y a eu un blocage, mais d'où vient ce blocage?
Il a perdu sa carte de bibliothèque.
Non,
c'est un drame.
Gros blocage.
Ça, c'est un blocage dans une relation. Toi, t'as des gros problèmes dans la vie.
Ouais, bah, je l'ai perdu depuis 25 ans.
Devenu dyslexique.
Non,
c'est un blocage social, c'est personnel.
Blocage.
C'est ni l'un ni l'autre,
familial, on va dire. Ouais.
Ah, le décès de quelqu'un.
Parce qu'on en avait marre de voir toujours le nez dans les livres.
Non, non, non.
La naissance de quelqu'un.
Alors, c'est un rapport avec son papa. C'est un blocage, ça vient de son papa.
Quand il est...
Il supportait pas ce que vous lisiez. Vous lisiez les SOS ou des trucs comme ça. Hein.
Non, non. Mais ouais, ils trouveront pas. Ouais.
Non,
ouais, c'est compliqué. Mais en fait, votre papa vous a obligé à lire et ça vous a bloqué.
Il m'a obligé à lire Le Grand Maulne, mais j'étais trop jeune et
c'est chiant en plus.
Bah après, j'ai adoré.
Non,
mais bien
non,
plus
mais
tard.
Moi aussi, mais enfant, j'ai trouvé ça chiant.
Ah bah oui, comme Proust, enfant, ça passe pas.
Pas forcément. Bah,
oui, mais enfin, ça dépend. Bah, enfin bon, bref.
Puis à 4 ans, c'est dur.
Je crois qu'il faut pas obliger à lire trop jeune. Voilà, non, mais plus tard, on peut conseiller. C'est bien de conseiller. De toute façon, c'est toujours mieux de suggérer que d'imposer.
Oui,
mais,
mais on peut comprendre aussi un parent, vous l'êtes vous aussi, qui, non pas force, mais enfin dit, il faut que tu lises. Allez, lis quelque chose, tu trouveras bien quelque chose qui va te plaire.
Après,
lis n'importe quoi, même une bande dessinée.
Non, mais c'est ça. Non, mais lire n'importe quoi, mais surtout pas imposer, quoi. Vaut mieux suggérer, mais un enfant, tant qu'il lit, c'est bien.
En fait, il a fait un transfert en se disant, moi, enfant, j'ai lu ça, ou moi, j'aurais aimé.
Oui, je sais pas, je l'ai pas analysé. Parce que ça coûte déjà suffisamment cher de m'analyser moi-même, mais voilà, oui, c'était ça. Et c'est vrai que ça m'a un peu bloqué pendant un moment, même plus qu'en 11 et 13 d'ailleurs.
Plus qu'en 11 et 13, qu'est-ce qui a fait la bascule?
Ouais,
pourquoi
retour,
vous avez repris?
En Hippocagne, en fait, j'étais...
La contrainte.
Ouais.
Ah oui, donc ça n'a pas repris à 13 ans, quoi.
Non,
ça a repris
plus tard.
Si, Hippocagne à 13 ans.
Non, à 18 ans, oui. Et puis après, bon, après j'ai vraiment aimé, mais...
Non mais j'insiste là-dessus parce qu'on en vient à l'amour de la lecture, à l'amour des auteurs et à cette transmission que vous permettez et à la radio et avec ce livre audio, on va évidemment en parler. Donc vous êtes tombé totalement dans l'autre, non seulement dans l'amour, mais dans la prescription, quoi. Vous voulez donner le goût de la lecture à tout le monde.
Oui, mais surtout de tout. Il faut vraiment tout lire.
Le spectre doit être le plus large possible.
Ah oui, vraiment. Mais un gamin, s'il lit même le verso de la boîte de cornflakes, c'est bon. Hein. Tant qu'il lit.
J'ai pas mal lu alors.
Et les livres. Non, mais les livres graphiques, par exemple, sont très bénéfiques parce que les gamins, en général, développent beaucoup plus leur vocabulaire parce qu'ils voient tout de suite l'image, ils comprennent tout de suite le mot qui leur est étranger. Donc, il faut vraiment ne jamais juger ce que l'enfant lit.
Et ce sont des succès en plus, ces livres-là. Oui, vous avez raison.
De plus en plus.
À 19 ans, Guillaume Gallienne ne savait pas qu'il allait devenir comédien. Il hésitait entre trois professions. Journaliste, avocat, et quelle est la troisième?
Danseur.
Non.
Philosophe?
Non.
Professeur de quelque chose?
Non.
Douanier?
Non. Journaliste, avocat, et...
Coiffeur?
Non, c'est un truc totalement dingue.
Mécanicien? Coiffeur, c'est pas mal.
Non.
Pâtissier?
Dingue.
Oui,
clown.
Enfin, dingue.
C'est pas un métier courant ou quand même?
Ah, c'est pas courant, non.
C'est pas courant.
Non.
Équarisseur?
Donc c'est pas électricien, jeu de mots. C'est...
Courant, électricien?
Ah, tu sors.
Médecin légiste.
Non, on est plus dans la...
Embaumeur.
On est plus dans la transmission, dans le
prêtre, curé.
Dans le spirituel.
Chaman.
Allez, on va
prendre... Druide.
Missionnaire.
Ah, missionnaire.
Ouais. Ah oui, c'est drôle, j'en ai parlé un jour avec un grand metteur en scène qui s'appelait Klaus Michael Gruber et je lui ai dit, il me dit moi aussi je voulais être missionnaire et le jour où j'ai dit à ma mère finalement je veux faire du théâtre, elle m'a dit mais c'est la même chose.
Voilà. En quoi? Au-delà de la plaisanterie ou
Au commencement était le verbe déjà, bon c'est le verbe, les deux c'est le vecteur et puis il faut y croire. Il faut y croire.
Ouais, c'est joli. Ouais.
Donc c'est très important. Faut tellement y croire qu'on fait croire.
Bon, pourtant, on a l'impression que le monde des comédiens est pas uniquement avec Molière et les comédiens à l'époque. Je dis pas que c'est un monde athée ou sans
aucune croyance. Un monde excommunié, mais pas athée.
Voilà, c'est ça. Mais on sent qu'il y a pas mal d'agnostics, en tout cas, dans ce milieu-là, non?
Ah, je sais pas. Il y a une ferveur en tout cas, en l'humanité, ça c'est sûr, parce qu'on va aller chercher les monstres, on va vraiment aller chercher ce qu'il y a de plus humain ce qu'il y a de plus complet dans l'humanité. Donc, souvent, bon, la monstruosité, mais on est obligé de l'aimer pour
donc
pour
le
JC
au, l'incarner. Donc le JC au théâtre n'est pas que jardin court, quoi. Ça peut être
Jésus-Christ.
Voilà, Jésus-Christ. Aussi, bravo. Ouais,
très bien. Bravo. Quels étaient les deux grands interdits pour les enfants dans la famille gallienne?
Le meurtre et le cannibalisme.
Alors oui.
Alors les deux,
oui. Ça, c'était, alors, ça, mais c'est, on va dire, sont des fondamentaux. Hein.
Ouais. Moi, si on ne précise pas.
Mais dans leur famille.
L'impolitesse?
Non. Il y avait deux choses interdites.
La fainéantise?
Non. Une chose, alors je vais vous aider, qui avait un rapport avec la salle à manger, une autre avec le salon.
Manger dans la salle à manger?
Non.
Mettre la table?
Non.
Manger en dehors des repas?
Non.
Regarder la télé tout en mangeant?
Non. Non, la regarder salle à manger et le salon.
Ouais. Il y avait, pardon?
Regarder ses parents en mangeant.
Alors,
parler, parler à table.
Parler à table.
Alors,
ouais.
Non, mais alors, je vais accepter ça, Daniel, ouais. Parce que la première interdiction était de manger avec les parents. On va revenir.
C'était pas une interdiction, c'était un fait.
Ouais. Voilà. Oui. Oui. Enfin, la première fois. Oui. Ça devient une habitude.
De temps en temps, on prenait des repas avec eux, mais en général, c'est vrai qu'on les prenait
d'accord.
Pas avec eux.
C'est donc, dur si t'es fils unique, quoi.
Ça, c'est.
Oui. Mais heureusement, non, on était une fratrie.
Donc, ensuite, il y avait une deuxième...
Interdiction.
Ouais.
Toujours en lien avec le salon et
ouais,
le
salon.
Salle à manger.
Le salon. Règle de vie avec le salon pour les enfants.
Pas de télé.
Pas, il ne faut pas jouer de dans
pas
le salon.
Pas les pieds sur la table.
Non.
Faut pas y passer la journée. Faut être dans sa chambre. Faut pas squatter. Faut
parents.
Pas traîner, quoi.
Ne pas regarder la télé, tout simplement.
Donc, encore plus définitif.
Interdit
pour
de salon.
Exactement.
Ah ouais, d'accord.
Interdit de salon et peu de repas avec les parents.
Le salon était vraiment pour recevoir. C'était une maison faite vraiment pour
bourgeoise.
C'était vraiment pour recevoir. Donc les enfants n'avaient pas le droit d'y aller. Il y avait
parce que quoi, les enfants, ça fait du bruit, ça tâche, ça met du désordre.
Non, puis surtout, il y a des objets précieux, ils peuvent les casser. Donc voilà, les raus. Et puis la salle à manger, c'était aussi pour recevoir. On prenait nos repas en fait avec les domestiques dans la cuisine. Et de temps en temps, mes parents étaient là. Mais c'était aussi dans la cuisine. La salle à manger, c'était que pour recevoir.
Ce que vous me racontez, c'est
Downton Abbey.
Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais après, je me suis dit, bon, c'est un peu, ça fait.
Mais on, ouais,
c'est
on
un peu niche Downton Abbey. Donc
mais,
je vais aller.
Mais on me l'a souvent dit. Oui, j'ai eu la chance de vivre plusieurs siècles en fait. Parce que non, mais c'est vrai. La pension dans laquelle j'étais, par exemple, on était 120 par dortoir. On m'a dit, mais attends, c'était au 19e. Ben non. Oui, et des choses comme ça. C'est des vieux préceptes. Alors ça fonctionne. Hein.
Ça n'empêche pas d'avoir une enfance heureuse.
Ah si. Ah si, ça empêche totalement, oui, non, après...
Non, mais parce qu'on peut, aussi s'amuser, partager avec le personnel ou domestique.
Non, le seul bonheur qu'il y a, c'est que tout est licencieux, donc n'importe quelle désobéissance devient une immense connerie, donc ça peut faire rire assez facilement, mais c'est un rire de maso, donc c'est pas terrible.
Ouais, c'est une forme d'exutoire, en fait.
Parce c'est tout. C'est pas top, non.
Pour éviter d'en pleurer, autant en rire.
Non, et puis même, puis après, c'était une vie très particulière. Moi, je sais que quand je dis les domestiques, ils vivaient avec nous, ils sont restés 40 ans.
Ils faisaient partie de la famille, presque.
Oui, ça fait un peu penser à la chanson douce, ça, mais oui, ils faisaient partie de la famille, c'est ça, enfin. De toute façon, moi j'ai une femme de ménage qui m'a collé un pain dans la gueule, j'avais 5 ans parce que je voulais pas manger la peau du lait. Bon, je me suis dit, ouais, elle fait vraiment partie de la famille.
Et ça vous gêne qu'on en parle ou ça vous fait
douce,
du bien?
Chanson douce, c'est légèrement plus violent.
Non, c'est plus violent, ouais. Ça fait penser parce que le couple lui dit, mais vous faites partie de la famille, ce qui est terrible.
C'est le texte de Leïla Slimani qui est adapté sur scène.
Ou sur scène en ce moment,
au théâtre. Au studio théâtre, ouais.
Leïla Slimani qui préface d'ailleurs le livre dont nous allons parler aujourd'hui.
Exact. Voilà. Et non, évidemment que c'est pas allé aussi loin, mais c'était particulier. C'était. Oui.
D'accord.
Voilà. Mais je m'en sors pas si mal.
Je vois. Pourquoi,
Vous pleurez quand même, là, en parlant. Là.
Équilibré. Non, mais ce qui serait intéressant, ce qui ne nous regarde pas, mais ce qui serait intéressant, c'est de voir quels échos votre éducation a sur votre famille actuelle, sur la manière dont vous organisez.
Mais c'est intéressant. C'est vrai que. On se construit avec ça, et que ce soit
en
reproduisant ou que ce soit justement en faisant exactement l'inverse. Après, bon, j'ai travaillé quand même, j'ai vu quand même des psys pendant très très longtemps, donc j'ai réussi à faire un peu le ménage. Donc j'essaye de trouver d'autres moteurs que. Et puis surtout, c'est que le gamin lui propose aussi une autre relation, donc ça vient aussi de l'enfant qui fait que ça passe à autre chose, heureusement quand même.
Ouais. Allez, dernière question,
et
pourquoi
puis ma femme surtout.
Voilà.
Elle a d'autres dossiers, mais moins lourds. Donc voilà.
Pourquoi son papa n'a-t-il pas bien profité du spectacle de son fils quand il est venu le voir sur scène?
Il s'est endormi?
Non.
Il arrivait en retard.
Oh, c'est pour finir avec c'est une drôle. Petite pirouette.
Il arrivait en retard, il était mal placé, il y avait un poteau devant lui.
Non.
Il est tombé de son siège.
Non.
Il s'est trompé de salle, il est même pas venu.
Il entendait pas, il voyait pas, il entendait pas bien. Et...
Ah, il avait oublié son, voilà. Son
automne. Exactement. Ouais. Il avait oublié son sonotone.
Non mais l'acte manqué est génial.
C'est-à-dire qu'il oui, il voulait vraiment pas quoi.
Il a oublié ses appareils auditifs, du coup il a passé toute la représentation en se tournant vers ma mère en disant qu'est-ce qu'il dit.
Et vous l'entendiez vous sur scène dire ça ou pas?
Non, 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 non. J'avais tellement le trac et tout. Non.
De savoir qu'il était présent.
De tout. Non, c'était la première des garçons et Guillaume à table, la première
d'accord,
fois que je l'ai joué, donc j'avais un petit peu le trac quand même. Je
me faisais chargé.
Je me faisais un petit peu à poil.
Il est revenu, il est revenu ou pas?
Non, 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 non.
Il a juste envoyé son sonotone.
Non, mais il en est mort. Mais non, non, mais il était malade. Et, non, non, mais c'est vrai, il est décédé peu de temps après, mais il était déjà très malade. Mais le fait qu'il ait oublié les sonotones, ça c'était quand même génial.
Vous avez raison, acte manqué.
Ah, c'est dément.
C'est exactement ça.
Voilà.
Tous les samedis de 18h à 19h, c'est sur France Inter. C'est une émission formidable qui s'appelle « Ça peut pas faire de mal
».
Avec régulièrement en tout cas, je crois que c'est le cinquième d'une collection maintenant, un ouvrage audio. Et là, pour fêter le 10e anniversaire, ce sont les femmes écrivains.
Curieuse d'autrui, je ne rêvais pas d'un sort différent du mien. En particulier, je ne déplorais pas d'être une fille. Je n'avais pas de frères. Aucune comparaison ne me révélait que certaines licences m'étaient refusées à cause de mon sexe. Je ressentis vivement mon enfance, jamais ma féminité.
Texte de Simone de Beauvoir. Vous avez donc choisi 4 femmes écrivains ou écrivaines, comme l'on veut. Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, Annie Ernaux. Faire des choix, c'est refuser, c'est exclure aussi, c'est écarter d'autres. Donc comment résumer ou ramener uniquement ces 4 femmes écrivaines, et avec en plus l'introduction faite par Leïla Slimani, qui est de dire il n'y a pas un genre dans la littérature, il n'y a pas un genre d'écriture féminine.
Oui. Il y a des auteurs.
Y a des auteurs.
Mais j'aime beaucoup cette préface, elle a raison. Après, on trouvait nécessaire, après les 4 premiers, de quand même faire honneur à ces femmes écrivaines. Et donc, la sélection, bah déjà, on voulait que ce soit des auteurs françaises, puisqu'on voulait pas qu'il y ait de traduction. Donc, déjà, ça limite.
Il fallait qu'elles incarnent chacune une littérature particulière.
Elles incarnent chacune surtout une époque par leur style et par l'évolution du féminisme aussi. Donc c'était ça qui était intéressant.
Et très humaniste aussi, parce que en fait on est dans de la biographie, soit ce qui est le cas de Simone de Beauvoir
ou d'Annie Ernaux,
soit dans une manière en tout cas d'écrire et de raconter la société dans laquelle elles ont vécu.
Oui, enfin, avec les mémoires d'Adrien, Yourcenar se détache quand même, mais de toute façon, elle se détache toujours, Yourcenar. Oui. Mais ne serait-ce que par son style, mais...
Oui, l'empereur Adrien, empereur romain, mais en même temps, ça fait écho, ce qu'elle raconte.
Elles ont quand même une façon d'écrire qui est tellement à la fois personnelle et ciselée. Je trouve que c'est quand même assez indiscutable à chaque fois. Elles voient tout. La manière dont elles décrivent est toujours portée par l'émotion et l'intelligence. Et elles se mettent rarement au centre, même quand elles le font. C'est assez brillant, ça. Chez Simone de Beauvoir, par exemple, elle parle beaucoup d'elle. Mais à la rigueur, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est plus l'idée de la femme que d'elle-même. Mmh.
Marguerite Duras, évidemment, on a en tête l'amant, on a en tête tout ce qu'elle a vécu dans le même son prisme des colonies, de la manière dont elle a
très
vécu.
Très engagée.
Ouais, très 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 engagée. On va prendre un autre extrait.
Le docteur n'avait pas tellement tort lorsqu'il faisait remonter l'origine des crises de la mer à l'écroulement des barrages. Qui n'aurait été sensible, saisi d'une grande détresse et d'une grande colère en effet, à l'image de ces barrages amoureusement édifiés par des centaines de paysans de la plaine, enfin éveillés de leur torpeur millénaire par une espérance soudaine et folle, et qui en une nuit s'étaient écroulés comme un château de cartes, spectaculairement, en une seule nuit, sous l'assaut élémentaire et implacable des vagues du Pacifique.
Moi, là où je suis complètement séduite, et c'est pour ça que j'adore aussi l'émission le samedi, c'est que la littérature, c'est l'expression d'une voix, d'une identité, d'un individu, qu'il représente une période ou qui parle que pour lui. Et tout d'un coup, entendre ces textes-là qui sont fondateurs quand on est une femme, parce que c'est aussi ce qui nous a permis une forme d'émancipation intellectuelle. Et je trouve que la voix que vous donnez à entendre un style, vous donnez à entendre une pensée, et je suis généralement gênée par les textes lus par d'autres, et je ne le suis pas avec vous. Non mais c'est vrai, parce que...
Même si c'est une femme auteur avec
oui,
une voix d'homme.
Oui, absolument, parce qu'en fait souvent les voix dans la façon de vouloir donner le texte, c'est souvent trop emphatique ou trop appuyé, or là on a des textes qui sont suffisamment forts pour pas en faire des caisses.
Ah oui.
Et c'est ce que vous faites, et j'ai la sensation qu'il y a même, ça va un peu plus loin, dans le choix des textes, il y a une petite charge émotionnelle quand même qui est un peu perceptible mais qui ne prend pas toute la place.
Merci.
C'est pour ça que j'adore l'émission.
Alors comment se prépare cette émission? Comment
alors,
se
d'abord,
font les choix des textes?
D'abord les assistantes de l'émission, bon, Estelle Gap qui est celle qui est là depuis le début, et Fanny Leroy ou Claire Tessa travaillent, Claire elle s'occupe des archives, mais ou les Lacour ou Célicois, elles font un montage, c'est elles qui font, moi je choisis l'œuvre. En général si je l'ai lu il y a 20 ans, je me souviens d'un extrait en disant « Oh, il y a ce passage-là, j'adore, il y a un moment où elle gueule là pendant 3 pages, il n'y a pas une ponctuation, j'adore, retrouvez-le-moi. » Mais
c'est
sinon,
bien, vous êtes
je...
précis dans vos indications.
Mais surtout qu'en plus, si j'ai la bonne édition dans laquelle ouais. je l'ai lu, je peux dire « Bon, c'est le 2/3, à tel moment, à tel passage, je peux le retrouver, mais sinon, non. » Et donc, je leur donne des de temps en temps des extraits, mais très rarement, et c'est elle qui sélectionne. C'est un vrai travail éditorial.
Alors, il y a plusieurs étapes dans ce travail. C'est d'abord de choisir l'auteur, ensuite de choisir quelle auteur.
Ça, c'est moi qui choisis. Oui, ça, je dis, j'aimerais faire ça ou j'aimerais faire ça.
Au milieu de l'œuvre.
C'est elles qui vont choisir les extraits, qui vont faire les chapeaux.
Tout n'est pas lu.
Ah non, c'est un digest en 50 minutes, c'est un digest. Et après, moi, je découvre toujours le texte en direct.
D'accord.
J'arrive dans le studio et je le lis directement. Je ne travaille pas avant.
Et vous écrivez les didascalies aussi?
Alors, de temps en temps, je les arrange, mais c'est souvent elles aussi. Moi, non, moi, je fous rien.
Qui remettent dans un contexte historique.
Oui, qui vont placer l'extrait en disant tel extrait, voilà où on en est dans l'œuvre.
Dans sa vie et pourquoi.
Mais elle a écrit ça. Encore une fois, c'est un digest. Ouais. On n'est pas là pour faire un cours magistral sur l'œuvre. On est là juste pour la suggérer.
Est-ce que ça remplace la lecture de l'œuvre? Est-ce que c'est un formidable résumé en se disant, en vous ayant écouté et en ayant lu les extraits, on se dit, bon, mémoire d'une jeune fille
rangée
aura été... ça, c'est comme si on l'avait lu, on a compris.
Oh, on l'a compris, il ne s'agit pas de comprendre, mon bon monsieur, il s'agit de perdre connaissance, comme disait Élisée, mais il faut...
Il m'a pris mon bon monsieur.
Oui, c'est Claudel. Ça donne une idée de l'œuvre dans le sens que ça donne d'abord une idée de comment c'est écrit et en effet quand même de son histoire globale.
Alors justement, Annie Ernaux, là, on ne peut pas ne pas écouter cet extrait.
Mon père a voulu tuer ma mère un dimanche de juin au début de l'après-midi. J'étais allé à la messe du midi moins le quart comme d'habitude. J'avais dû apporter les gâteaux du pâtissier. Une fois les clients partis, les volets ajustés sur la devanture de l'épicerie, nous avons mangé, sans doute la radio allumée, parce qu'à cette heure-là, c'était une émission humoristique, le tribunal. Ma mère était de mauvaise humeur. La dispute qu'elle avait entreprise avec mon père, sitôt assise, n'a pas cessé durant tout le repas.
La suite à découvrir dans le livre chez Gallimard, ça peut pas faire de mal, mais elle vit un véritable choc en étant petite fille, clairement.
Ouais. Il y a eu plusieurs chocs dans sa vie.
Mon enfance, là, c'est les bisounours.
Même son adolescence, même tout, enfin tout. Il y a l'autre fille qui a un texte merveilleux,
voilà, grand auteur.
Non, et puis c'est revenu Annie Ernaux à la suite des publications de Didier Ribon et Édouard Louis qui reprennent finalement ces milieux sociaux qu'on méconnaît, parce que généralement, il n'y a pas d'écrivain pour en parler. Mm-hmm. Et eux, ils sont très doués pour faire ça. Et du coup, il y a une espèce de prise de conscience qui est, à l'heure des gilets jaunes, etc., qui est d'actualité, en fait. Enfin, je trouve, personnellement. J'ai l'impression d'être seul, là.
Non, c'est vrai.
Non, mais il y a un mouvement,
après, moi,
en fait, de cette littérature un peu
rarement,
plus...
Moi,
mais...
En tout cas, de dire que ça reflète une vie particulière, un cadre de vie, une classe sociale voilà. particulière, totalement d'accord. Mmh. De tout de suite y voir l'écho des gilets jaunes, c'est...
C'est sa lecture non, à lui.
Édouard Louis, par exemple, oui. est beaucoup plus politique oui. qu'Anne Ernaux, oui. c'est sûr. Mais
Du coup...
Mais je ne sais pas qui est le plus politique en réalité et qui est le plus audible, in fine. Parce que c'est aussi ça. C'est-à-dire que le positionnement d'Annie Ernaux, même si, en effet, quand elle fait son bouquin dans les supermarchés, qu'elle te raconte la société à travers une balade dans un supermarché, elle rend compte quand même d'une réalité de la société sans pour autant être dans une forme de militantisme accru. Et donc, je pense qu'elle est aussi peut-être plus facilement audible que peut l'être Édouard Louis, qui prend position souvent à raison, hein, je trouve. Hein, sur plein de sujets de société, mais ça peut être plus angoissant en réalité.
Guillaume Gallienne, ça peut pas faire de mal, c'est chez Gallimard. Il y a deux CD pour entendre la voix, les arrangements, les musiques, les bruitages, la mise en onde, comme.
Mais en plus du texte, c'est ça qui est original, c'est qu'on peut lire en écoutant, ou juste lire, ou juste écouter. Mais ça permet de.
On ne peut pas faire les deux en même temps.
Pourquoi pas ?
On peut pas parce que il y a les extraits des textes, donc c'est assez troublant parce que vous passez d'un passage à un autre, donc on peut pas écouter et lire en même temps.
Ah si.
Ah non, moi j'ai pas réussi.
Ah ouais, moi j'adore.
Parce que d'un coup votre voix passe.
Moi j'ai lu, j'ai écouté et je conduisais. tu fumes une clope aussi.
Le texte passe 10 lignes après et on se dit ah ben non mais moi j'ai envie de lire donc on fait pause.
Oui, on peut faire pause.
On lit ce qu'il y a au milieu puis on reprend. Je préfère soit écouter. J'ai du mal à faire deux choses en même temps. Guillaume Gallienne, ça peut pas faire de mal. C'est passionnant, c'est intelligent, c'est super, et ça donne envie de lire justement, de découvrir la suite,
ah bah,
ce qu'il peut y avoir autour. Tom Villa, c'est un succès garanti, un succès.
Ça fait 10 ans, c'est le 10e anniversaire. Ça peut pas faire de mal. Ça peut pas faire de mal d'ailleurs, qui était la phrase fétiche de Christophe Castaner il y a encore 10 jours. Et là, ça, c'est juste un shot. Ça peut pas faire de mal. Voilà. Alors donc vous sortez donc un livre tiré d'une émission de radio où vous lisez des livres. Là c'est un petit peu Inception. Hein. Je rappelle à nos auditeurs qui connaissent pas et honte à eux. Vous lisez les passages emblématiques d'œuvres majeures de la littérature pendant une heure que vous décortiquez et essayez de rendre accessible au plus grand nombre. Et c'est marrant ça d'écouter un livre. Mais échanger les sens c'est pas valable pour tout. Par exemple rarement il y a des gens qui disent j'ai regardé une chanson. C'est très rare. Ou j'ai senti un film. Ou alors c'est l'inverse. J'ai pas été voir qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Je l'ai pas senti. Tu vois. Mais c'est très rare. Et d'ailleurs en fouillant sur le site de France Inter, il y a quand même une œuvre majeure de la littérature que vous avez oubliée. Ouais, on va réparer ça ce matin, vous inquiétez pas.
Ça peut pas faire de mal.
Oh, oh tiens, voilà quelqu'un, petit ours. Coucou, c'est toi mon copain, petit ours. Tu fais toujours ton copain, mon petit ours malin.
Aujourd'hui, petit ours brun aime bien les glaces. Petit ours brun demande à sa mamie, tu aimes bien les glaces toi ? Moi oui. Mamie sourit et dit, bonne idée, tiens, tu veux quel parfum ? Allez, choisis. Petit ours brun réfléchit longtemps, il ne sait pas. Fraise, citron, allez, fraise et citron, voilà. Petit ours brun lèche à petits coups la glace, hein, pas sa mamie.
Oh, ça va pas.
C'est bon, c'est hyper froid, ça a le goût de la fraise, mais ça fond, comme toi mamie.
Oh,
la glace se met à dégouliner sur le cornet, les bras, vite, il faut lécher la boule, le cornet, les doigts. Tout à coup, pouf, la boule tombe, bien étalée par terre. Petit ours brun a très envie de pleurer. Mamie dit, une glace et une boule, c'est bien aussi. Petit ours brun sourit et répondit, ça te rappellera papy. Alors, dans cette œuvre, Petit ours brun fait l'éloge de la gourmandise. Les doutes qui l'assaillissent, les doutes qui s'emparent de lui. Au moment du choix du parfum, laisse apparaître une certaine fragilité toute romanesque chez le petit mammifère carnivore, fraise, citron, allez, fraise et citron, quel dilemme. Il hésite, mais après bien des atermoiements, il finit par choisir les deux parfums. Et surtout, quelle gourmandise. Manger une glace de boule après avoir englouti 2 moutons et 3 chèvres, le petit tient tout de son père. Mais malheur du héros, une boule tomba. Heureusement, mamie fut présente pour le rassurer. Sacrée mamie. Personnage discret du récit, mais ô combien central dans l'intrigue chevaleresque qui nous est proposée là, Petit Ours Brun est maladroit. Et dans cette douce complicité entre l'enfant et la vieille, nos deux protagonistes se remémorent le souvenir du grand-père de Petit Ours Brun, le monotesticulaire et néanmoins valeureux guerrier, malheureusement mort au front. Il s'est pris une ruche sur la gueule, il est donc mort au front. La semaine prochaine, je vous propose d'explorer les méandres de l'âme humaine à travers une œuvre marquante. Tchoupi s'est fait bobo contre un CRS. Allez, bonne émission.
C'est là où on voit le talent de Guillaume
Gallienne. Ah oui. La boule originale.
C'est boulot. Lady
sur France Inter.
Fallait oser quand même. Fallait oser devant lui.
J'ai pas fait Petit Ours Brun.
Merci.
C'est vrai.
Merci Tom. Parlons
dans le prochain livre.
Écoutons Le Bonheur, lu par Guillaume Gallienne, un extrait de Marguerite Yourcenar.
Tout bonheur est un chef-d'œuvre. La moindre erreur le fausse. La moindre hésitation l'altère. La moindre lourdeur le départ. La moindre sottise, la bêtise. Le mien n'est responsable en rien de celle de mes imprudences qui plus tard l'ont brisé. Tant que j'ai agi dans son sens, j'ai été sage. Je crois encore qu'il eût été possible à un homme plus sage que moi d'être heureux jusqu'à sa mort.
Humaniste aussi, ce sont les mémoires d'Adrien. Alors c'est pas l'autobiographie de Marguerite Yourcenar, contrairement à Simone de Beauvoir, Marguerite Duras et Annie Ernaux, où là on est plus dans leur, plus proche de leur propre vie, mais
c'est l'évolution du roman aussi.
Voilà, ouais. Mais l'humain est très 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 présent parce qu'elle a voulu redonner celle de noblesse à cet empereur.
Oui, et puis c'est surtout c'est qu'il y a un écho avec une vision à la fois de l'intime et de l'universel qui chez elle est toujours c'est un peu son
c'est associé toujours
elle essaye toujours de réfléchir à ces deux pôles après c'est drôle parce que en entendant je me dis j'ai toujours l'impression que inconsciemment je prends un peu la voix que j'ai l'impression que l'auteur a
Alors c'était ma question c'est est-ce qu'il y a une interprétation dans la manière de
mais je la décide lire. Pas mais ça se fait presque inconsciemment
donc là vous n'avez pas de metteur en scène vous êtes votre propre
j'ai un réalisateur génial mais il est génial surtout parce qu'il me dit rien
mais alors vous relisez pas le texte avant mais est-ce que ça arrive que à la fin d'un enregistrement vous dites non c'est nul on recommence
depuis le début pas de tout l'enregistrement mais parfois je commence et tout d'un coup je peux refaire, excusez-moi, c'est pas ça.
Est-ce que vous réécoutez avant de vouloir refaire
Non, je réécoute pas, je le sens tout de suite, je le sais, je dis non, là je me suis planté, je refais. Mais ça m'arrive.
Donc vous modifiez un petit peu votre tonalité quand même.
Mais c'est tout d'un coup, il y a un rythme, il y a une musique où je sais pas pourquoi, la première phrase m'évoque une cadence et tout d'un coup je me rends compte que je me suis un peu planté, que c'est pas ça, c'est beaucoup plus calme, au contraire plus tonique et que voilà. Mais voilà, en entendant ces
par exemple,
je m'écoute jamais.
Donc... Texte d'Annie Ernaux.
Lundi, jour mort. Des restes et du pain de la veille. Du crochet radiophonique sur Radio Luxembourg. Mardi, de la lessive et de Reine d'un jour. Mercredi, du marché et de l'affiche du prochain film au cinéma Le Roi. Quitte ou double. Jeudi, congé. Parution de Lisette. Vendredi, du poisson. Samedi, du ménage en grand et du lavage de tête. Dimanche, jour de la messe. Rite majeur, ordonnançant les autres. Le change du linge de corps, l'étrenne d'une nouvelle toilette, les gâteaux du pâtissier et le petit extra, les obligations et les plaisirs.
Voilà, là, on est vraiment dans la vie, dans son rythme de vie. Et c'est une liste, c'est très factuel. Mais c'est vrai que vous le faites avec, justement, le ton d'une liste écrite. Quoi,
je le sens, c'est au moment où je le lis. Mais,
La mise en onde, les musiques, les bruitages ne viennent qu'après. Vous les entendez quand vous le faites
c'est Xavier Pestugia, le réalisateur de l'émission depuis le début, qui a des oreilles extraordinaires de radio. Et c'est lui qui fait tout. Je réécoute jamais, moi. Jamais, jamais, jamais. C'est lui qui fait tout.
Et vous écoutez à la maison de temps en temps?
Non, jamais.
Jamais?
Non. Non, je prends plaisir à le faire, mais après, écouter, non, puisque, je sais pas, j'ai d'autres choses à faire.
Est-ce que vous lisez régulièrement à voix haute? Je lisais un article vous concernant, vous parlez de Jacqueline de Romilly, qui est une femme extraordinaire.
Oui.
Sur la fin de sa vie, Jacqueline de Romilly ne voyait plus. C'est une grande helléniste, et elle avait de la chance d'avoir quelqu'un qui venait tous les jours lui lire des extraits de l'Odyssée ou de l'Iliade en grec ou toute autre forme de littérature selon ses désirs. Est-ce que vous avez déjà pratiqué cette lecture pour quelqu'un? Ou pour Jacqueline de Romilly, je ne sais pas.
Je le fais pour mon fils. Pour mon fils, oui, je lui ai lu à haute voix pas mal de choses.
Ça donne le goût de la lecture, d'ailleurs, de lire des histoires aussi à des enfants.
C'est pas mal, oui, parce que c'est animé, c'est vivant. On se rend compte à quel point derrière ces lettres imprimées, ça recèle de vie et de.
Non, puis une fois qu'ils savent lire, ils veulent aller au bout.
Il y a le danger de papa le fait mieux que moi quand je lis, c'est mieux.
Il y a l'envie d'aller au bout. C'est-à-dire, tu commences une histoire, tu laisses traîner le livre, mais le gamin qui sait lire va se précipiter dessus pour savoir.
Moi, j'ai eu ça avec Proust, notamment, ou aussi avec l'Ulysse de Joyce. Ce sont des livres que je n'osais pas approcher parce que la peur de l'ennui, la peur de la masse, la peur d'un style trop élaboré ou je ne sais quoi. Et en le disant à haute voix, puisque Proust, je l'ai découvert en direct et à haute voix, en l'enregistrant pour les éditions Télém, et j'ai hurlé de rire et j'ai adoré, j'ai trouvé ça finalement pas si compliqué. Et la même chose avec l'Ulysse de Joyce, j'ai découvert tout de suite la différence des styles avec les accents.
Et avec Laurent Mould Vous avez fini par lire,
mais je l'ai lu bien sûr. Plus tard, oui, mais certains passages, pas le tout.
Ouais. C'est bien de l'admettre.
C'est chez Gallimard avec France Inter, pour le 10e anniversaire de l'émission de Guillaume Gallienne. Ça peut pas faire de mal, les textes, les morceaux choisis de Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar et Annie Ernaux. Alexis Le Rossignol.
Oui.
Visiblement, le monde du travail vous manque.
Oui, ben effectivement Nagui, parce que vous savez, avant de faire des chroniques inspirées sur les pompes à vélo ou les rouleaux de jambon, moi je bossais dans le monde du travail. Mais c'est vrai que les meetings et les brainstormings me manquent, surtout les brainstormings d'ailleurs, parce qu'on pouvait dire n'importe quoi. Et moi j'étais vachement balèze pour ça. D'ailleurs, de temps en temps, je brainstorm tout seul, par nostalgie. Je me dis, Alexis, tu veux commencer ? Alors vas-y, tu n'hésites pas surtout, hein. Tu dis tout ce qui te passe par la tête, je vais pas te juger. Alors samedi dernier, par exemple, j'ai eu une idée de pub révolutionnaire suite à un brainstorming, une pub pour le canard WC. Imaginez, on verrait une personne de dos avec de beaux cheveux longs en train de nettoyer les toilettes. Hein, jusque-là, rien de très original. Mais tout d'un coup, cette personne se retournerait et on s'apercevrait qu'il s'agit d'un homme. Slogan, canard WC, ça vous embouche un coin.
Mais non.
Ben oui, parce qu'un homme dans une publicité pour un produit d'entretien,
ouais, c'est pas mal.
Succès assuré. Ouais.
T'étais dans la pub avant ?
Non, mais bon.
C'est
une bonne idée, moi, je trouve. Et moi, j'imagine les marketing managers là, de chez Canard WC qui écoutent cette chronique et qui se disent « Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé avant à ça ?» Mais parce que vous brainstormez pas assez, les gars. Faut être aware. Mais heureusement, il y a des techniques pour ça. Et si vous voulez, chers auditeurs, j'ai fait un petit listing de rattrapage des dernières tendances en matière de créativité au travail. Cette chronique, faudra la faire circuler dans les services marketing. Il y a des parts de marché à aller chercher. Premièrement, on a le co-working.
Ah oui.
Co-working. Comme je ne parle pas très bien anglais.
Ah, co-working, on marche ensemble. Walking.
J'ai cru que vous alliez penser co-working.
Oui, ouais, c'est ça. Bah, ouais, j'ai entendu
co-working. Non. Le co-working, ça consiste à aller marcher avec un collègue. Et les gars, vous faites quoi ? Vous sortez fumer une clope ? Non, monsieur, on va co-walker. Le co-walking, c'est comme une promenade. Mais attention, c'est pour parler boulot. Hein. Donc, si tu lèves la tête pour dire « Oh, regarde des oies », t'as perdu. Hein. Tu laisses ton pote walker tout seul et toi, tu rentres au bureau. Donc, dans le même registre, il y a aussi le « Never eat alone ». Littéralement, ne jamais manger seul. Bah oui, parce que c'est chiant ce temps perdu à manger. Ça fait une coupure dans la journée de boulot, tu te détends, tu relâches un peu la concentration. C'est pas bon, ça. Donc, l'heure du déjeuner, c'est parfait pour parler business. En plus, si tu te débrouilles bien, tu peux même faire les deux à la suite. D'abord, tu fais un petit co-walking jusqu'au resto avec ton contact, histoire de t'échauffer. Hein. S'il te dit « Oh, des oies », tu lui mets un coup de coude dans les côtes pour qu'il comprenne que c'est pas une promenade. Et au moment d'attaquer l'heure d'œuf, t'es déjà chaud pour conclure ton deal. Voilà. Sinon, parmi les autres trucs à la mode, il y a le « mindful eating ».
Oula, mindful eating.
Ouais. Alors ça consiste à prendre son petit déjeuner ou son déjeuner sans téléphone portable ou sans tablette, voilà, pour prendre conscience de ce qu'on mange.
D'accord.
L'exploit, vraiment, waouh. Personnellement, j'ai essayé au début, c'est un peu chaud parce que, tu sais, t'as des vieux réflexes comme si tu cherchais le sel, tu cherches ton téléphone un peu comme ça. Mais c'est vrai que c'est vachement bien, parce que moi, j'étais devenu tellement accro au téléphone que je confondais viande et poisson. Hein, c'est vrai, une fois j'ai mangé une bavette sauce hollandaise, j'ai cru que c'était du cabillaud. Tu vois. Bref, je sais pas où on va, messieurs, dames.
Oui, nous non plus.
Mais on est en train de créer le concept de manger sans portable.
Une pensée pour mes parents qui font ça depuis toujours sans le savoir, voilà. Vous remarquerez un truc, c'est que c'est souvent des concepts qui viennent des États-Unis, ça. Hein, parce que les Américains, ils sont très forts pour conceptualiser des idées. Même si c'est une idée à la con, ils arrivent à en faire un concept, tu vois. Et nous, on adopte ça. On est là, ça vient des États-Unis, c'est trop bien, machin. On parle anglais comme des canards, mais on prend quand même, tu vois. Alors que si ça se trouve, ce genre d'idée, c'est juste pour l'export. Les Américains, à midi, ils mangent des burgers tout seuls dans les séries Netflix, évidemment. Vous savez quoi? Moi, je pense qu'on peut anticiper ce qui va venir, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit toujours des suiveurs. Hein. On a des idées en France. Alors, après le « never eat alone », moi, je propose le « never sleep alone », qui consiste à dormir avec un ou qu'une collègue différente tous les soirs, voilà, pour créer des synergies, hein, ou approfondir les connaissances d'un dossier.
On appelle ça comme on veut.
Là, c'est... Moi j'appelle ça hashtag MeToo, mais vas-y.
Ou alors on a le copissing, qui consiste à aller pisser avec un collègue.
Le copissing,
voilà. La solution idéale pour des réunions courtes et informelles. Ouais. Dis donc Patrick, faut qu'on fasse un point là sur le dossier Sogefil, parce que ça jase à la compta. Écoute, j'ai pas le temps, mais là je vais pisser, joins-toi à moi. Et puis ça permet d'apprendre à se connaître.
Oui.
Mais c'est vrai, moi ce matin j'ai copissé avec Daniel Morin.
Et alors ?
Eh ben, ça a changé notre relation. Avant, il m'appelait gamin. Maintenant, il m'appelle monsieur.
Bonne journée, monsieur. Merci, Alexis Rossignol.
France Inter. Maggie. La bande originale.
T'es co-walké à la direction.
Non, mais c'est dur le lundi. Hein. Oh là là.
Oh, pfff, tu reviendras vendredi alors. Ouais. La bande originale de Guillaume Gallienne. Ce que Guillaume écoutait comme musique, par exemple, dans les années 90, c'était Carly Simon. Moi j'avais You've Got a Friend en tête de Carly Simon, You're So Vain.
Ah ouais, aussi.
Et ce titre-là vous évoque quelle période
Working
de votre vie,
Girl,
quelles images?
Working Girl, c'est le film de Mike Nichols avec Sigourney Weaver et Melanie Griffiths et Harrison Ford. Et ben c'était l'époque.
Vous découvrez les musiques avec les BO?
Ouais, je séchais les cours et je passais ma vie au cinéma. Je crois que Working Girl, j'ai dû voir 5 fois d'affilée à peu près. Et j'étais à fond, ouais. J'ai beaucoup, beaucoup découvert le cinéma en salle à cette époque. Et les BO, ouais. J'adore.
Et vous entrez au cours Florent, vous vous inscrivez au cours Florent, vous avez 18 ans, Guillaume. Y a un choc personnel qui fait que vous décidez de pousser les portes de secours.
Bah déjà à l'intérieur de moi, oui, ma cousine est morte quand j'avais 18 ans et le jour de sa mort, j'ai dit donc je veux faire du théâtre.
Mmh. Ouais, c'est la fragilité de la vie qui vous a poussé à agir immédiatement.
Si la vie peut être aussi. Mais d'ailleurs, elle m'écrivait pour mon anniversaire, elle m'avait écrit Carpe Diem pour mes 18 ans. C'est dans mon film d'ailleurs, c'est un des premiers plans des garçons Guillaume Attal. Et oui, je me suis dit, si la vie peut être si courte, il m'en faut plusieurs.
Ouais.
Voilà.
Donc le cours Florent.
Le cours Florent.
Toujours la fac en parallèle.
Oui.
On lâche pas sérieux,
non.
On va dire.
Oui, mon père me dit, il faut que tu continues les études. Je dis, mais évidemment, si je suis nul, il faut bien quand même que j'ai un diplôme, quoi. Ouais.
Et en fait, les premières réactions au cours Florent, c'est de dire de vous que vous êtes particulièrement précis.
Ouais.
Et que c'est une qualité exceptionnelle, mais ça peut être aussi un problème ensuite.
En effet, c'est un compliment qu'on me faisait un peu trop souvent et j'en ai parlé à François Florent quand j'ai quitté l'école au bout de 4 ans et pour rentrer au conservatoire et je lui dis ce compliment me fait peur. Il me dit, t'as entièrement raison d'avoir peur. Je lui dis, mais je sais pas pourquoi. Il me dit, parce que dans précis, il y a précieux et il y a prévisible. Travaille l'imprécis, travaille l'improbable, travaille l'imparfait, travaille l'impressionnant. Travaille le IM qui doivent précéder ton jeu.
Mmh. Et ouais. C'est pour ça que vous êtes allé un peu à Londres, aux États-Unis aussi, pour désapprendre ou réapprendre différemment.
D'autres méthodes, d'autres façons d'aborder les textes, la scène.
Pardon, travailler l'imparfait, ça veut dire corriger ce qui ne va pas ou au contraire cultiver sa différence?
Ça veut dire surtout ne pas avoir peur de l'erreur et ça n'est pas parfait, mais tant mieux. C'est très ennuyeux en fait, ça n'a aucun
lisse.
Charme la perfection.
Ouais.
Donc voilà, ne pas être trop ciselé, trop précis, laisser place à l'imprévisible.
En 2010-2011, vous écoutiez de la Hightower. Impossible d'entendre ça sans bouger. C'est dingue.
Ah oui, je suis d'accord avec vous, j'adore ce titre.
Il n'a pas bougé.
Bien sûr, à l'intérieur,
Daniel est mort.
C'est la rumba à l'intérieur.
Deux années, 2010-2011, et deux Molières. Le premier pour Les Garçons et Guillaume à table, spectacle que, dont on a parlé avec l'oubli du sonotone pour votre père. C'est le Molière de la Révélation, théâtrale masculine. Et puis l'année d'après, c'est Un fil à la patte, Molière du comédien, mis en scène par Jérôme Deschamps, un texte de Feydeau. Deux années hyper denses.
Oui, pas plus que les autres. Enfin, j'ai l'impression.
Mais en tout cas, couronné de succès.
Ah oui. Mais
de ce point de vue-là,
ouais. Oui, c'est encourageant, c'est agréable que la profession.
C'est arrivé tard pour vous. Vous avez la sensation que la profession vous.
Ah non, pas du tout. Ça
vous honore.
Presque. Non, ça arrivait tôt, au contraire. Non, ça arrivait tôt. Moi, je pensais que je serais un vieil acteur, éventuellement récompensé. En fin de vie, je m'attendais pas si tôt, franchement. Non, c'est vrai.
Et cette reconnaissance par vos pères, c'est une manière aussi de régler quelques problèmes avec votre famille, votre éducation, votre enfance,
mon Dieu,
et de dire
non, ça règle. Non, pas du tout. Non, c'est
ça ne pense sauf aucune. Que, ça ne sauf... pense aucune plaie.
Ça en crée d'autres qui est la vanité. Donc, faut faire attention. Faut juste se protéger de la vanité, mais donc c'est un problème intérieur, c'est pas vis-à-vis des autres, c'est juste soit on
demande
se dit...
à quelqu'un là d'être une source d'équilibre à ce moment-là.
Ma femme, ouais. Qui dit, en fait, tu vas redescendre, bonhomme. Ouais, bien sûr. Ok, allez.
Il y en a qui divorcent aussi, hein, dans ce genre de situation.
Ouais, c'était une option.
C'est vrai, mais je.
Non, mais il y a beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes de personnalité qui voulant les calmer dans leur prise de grosse tête, la personne se dit bon, ok, c'est pas.
C'est trop tard, le mal
est
fait.
Elle est pas faite pour moi.
Quelle horreur.
Je pars vivre avec quelqu'un d'autre.
Ah oui, non, mais moi, ma femme, c'est
l'amour était plus fort.
Non, mais c'est mon socle, c'est ma boussole, quoi. Sinon, je pète les plombs. Donc voilà. Non, c'est la vanité, le danger, mais ça fait quand même plaisir. Quand même, c'est encourageant.
Émilie, je n'ai que le prénom, donc je ne vais utiliser que le prénom.
C'est parfait.
Soyez la bienvenue à ce micro. Vous êtes, on vous connaît sous le pseudo de Bulldop, pardon, et pas Bulldog, Bulldop. Vous faites partie de la communauté des Booktubers. Il faut expliquer. Booktubers, c'est YouTube, mais en lecture de livres.
Alors, les booktubers, ce sont des personnes qui parlent de littérature sur les réseaux sociaux et en particulier sur YouTube.
Passionnés de littérature qui font partager leur coup de cœur.
Exactement. Voilà, on anime nos chaînes et nos réseaux sociaux autour de la lecture pour donner envie de lire aux plus jeunes.
Il y a une personne, une date du démarrage de ce genre de tendance, une période où c'est venu en même temps que YouTube a éclaté, en même temps qu'on fait avec de la musique, pourquoi ne pas le faire avec des livres ?
Je pense que ça a commencé vraiment en 2012.
D'accord.
Où là, il y a eu un espèce de boom, mais ça vient des pays hispanophones. Donc, c'est une tendance. Ouais.
Mais de quoi? Tout de radio, pense... de télénovelas, ça venait quoi? C'était des
romans
photos?
Non, c'est eux qui ont commencé à.
C'est fou.
Ouais. Alors, on n'a pas vraiment d'explication. On pense souvent que c'est les Américains qui amènent tout, mais non, là. Pour le coup, c'est pas eux.
Votre amour de la lecture avant de se concrétiser sur Internet était concret avec des pages, avec des livres. Il n'y avait rien de numérique. Vous étiez en librairie, tout simplement.
Exactement. J'étais libraire il y a 3 ans.
Et quand on est libraire, on est prescriptrice aussi. On est censé avoir, si ce n'est tout lu, en tout cas connaître les grandes tendances et pouvoir conseiller.
C'est ça. Et en fait, le fait d'avoir quitté la librairie pour continuer sur Internet, la seule chose qui a changé, c'est qu'on n'a pas les clients en face, quoi.
Ouais. Et qu'est-ce qui a déclenché votre envie de quitter la librairie? Donc le contact aussi, j'imagine, c'est ce qui est aussi beau dans une librairie, pour faire ces chroniques-là en ligne.
Le temps, en fait. Faut savoir que pour faire une vidéo, ça prend énormément de temps, entre 15 heures et plus. Et donc du coup,
ça dépend de la durée de la vidéo.
Oui, ça dépend du contenu, ça dépend de la durée, mais ça prend quand même beaucoup de temps.
Ça comprend la lecture du livre, les 15 heures?
Non.
Ah bon.
Non, là c'est vraiment la conception de la vidéo, le tournage, le script, le montage, la diffusion, la communication qui va autour. Donc ça prend pas mal de temps et personnellement j'avais beaucoup de mal à faire les deux, donc c'était soit ça, soit le burn-out. J'ai choisi de tenter ma chance, ma chance ailleurs.
C'est bien, c'est bien.
Puis voilà.
3,5 millions de vues. Vous avez plus de pratiquement 100 000 abonnés sur votre chaîne YouTube. Bulle Dop, je rappelle pour ceux qui veulent aller suivre vos lectures, vos vidéos. Est-ce que ce sont de nouveaux lecteurs ou en tout cas de nouveaux, je ne vais pas employer le terme de clients, je ne sais pas, de nouvelles personnes touchées par la lecture, grâce à vous, parce que justement le moyen de communication n'est pas le même.
Oui et non. Il y a des personnes qui étaient déjà clients. Il y avait des gens qui lisaient déjà. Mais moi, mon but, c'est vraiment d'amener le plus de personnes possible à découvrir le plaisir de la littérature et de la lecture en général. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai commencé très tard aussi. Et donc oui, j'espère, enfin en tout cas, j'ai l'impression que ça marche un petit peu quand même.
Alors pour être concret, ce sont des vidéos où on vous voit lire, des livres, on vous entend.
On me voit parler de livres. Voilà. Donc d'accord. Je vais vraiment réutiliser tous les codes de YouTube. Donc il peut y avoir ce qu'on appelle des update lectures, mm-hmm. où en gros c'est des conseils littéraires comme je faisais en librairie.
Mais il y a quelques extraits quand même. Il y a des exemples que vous donnez en disant j'aime.
Exactement. C'est... Je vais sélectionner vraiment les livres que je vais présenter.
Et ça donne par exemple ceci.
Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur les trois romans finalistes du prix Fantasy des Booktubers organisé par Bookelis. C'est parti. Et je commence avec le livre Le souffle d'Aloès d'Alan Spade. Dans ce roman, on va suivre l'histoire du jeune Pelmen, un garçon qui va tout faire pour essayer de contrer son destin, puisque son destin le destine à manier le silex dans la tannerie de son père jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est son amitié avec Télègue Bozancroix, qui est le fils du menuisier du village, et l'admiration qu'il a pour sa sœur Alicène, qui vont l'aider à s'en sortir.
Il alors, va notamment ça donne l'envie, c'est-à-dire on se dit, ok, je suis intrigué par cette histoire, j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre, donc je vais me mettre à lire.
Normalement.
Non, mais est-ce que vous savez justement entre le nombre de clics et l'incidence que ça a sur le livre, avez-vous une idée du rapport?
Alors, on n'a pas vraiment de chiffres exacts, mais comme on peut pas avoir de chiffres pour les affiches dans le métro, mais dans les commentaires, par contre, il y a un vrai taux d'engagement. Les personnes réagissent. Ensuite, moi, ils m'envoient des photos sur les réseaux sociaux pour me dire qu'ils ont lu tel livre ou un tel. Et c'est vraiment du bouche à oreille, en fait. C'est de la prescription par les pairs. Mmh. C'est-à-dire que je vais parler à ma caméra comme je parle à ma meilleure amie pour lui conseiller le dernier livre qui m'a fait frissonner toute la nuit. Enfin, voilà, il n'y a pas de chiffres, mais...
Donc c'est de la prescription au sens pur du terme. Est-ce qu'à l'inverse, c'est de la critique? C'est-à-dire, vous pouvez aussi démonter un livre en disant « je l'ai lu et c'est de la daube ».
Pas ça. Alors je le faisais beaucoup au début, mais parce que je démontais pas le livre. Le but, c'est vraiment pas de démonter le livre, c'est de donner envie aux gens de lire, et du coup, c'est pas...
Oui, mais enfin, si vous l'avez fait au début, c'est que ça vous démangeait aussi.
Au début, c'était pas pareil, en fait, parce qu'au début, déjà, il y avait beaucoup moins de monde. Et puis il y avait vraiment, je pense que je lisais plus de genres très précis. Maintenant, je lis de tout. D'accord. Et je sais sélectionner mieux.
Alors comment être, puisque vous êtes influenceuse, autant de dizaines de milliers ou de centaines de milliers de personnes qui vous suivent, j'imagine que des maisons d'édition vous contactent pour que justement vous recommandiez qu'on lise leurs auteurs. Et alors comment être libre, parce que vous avez aussi besoin de manger, de vivre et d'être payé. Donc qu'est-ce qui garantit votre indépendance et votre objectivité?
Écoutez, moi c'est simple, ça fait 3 ans que c'est devenu mon métier d'être prescriptrice, chroniqueuse littéraire en tout genre. Et la liberté, je l'ai conservée dès l'instant où j'ai refusé tous les services presse. Je vais sélectionner les livres.
De recevoir gratuitement les livres.
Exactement. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de... une vague, en fait. On a un peu émergé de nulle part et on nous a envoyé tous les derniers titres. Moi, ça m'a un petit peu oppressée, donc j'ai tout de suite dit non. Et le fait d'aller en librairie pour acheter ses livres, choisir ses lectures. Même quand on fait des partenariats rémunérés, je choisis toujours mes partenariats rémunérés. J'ai plus tendance à dire non que oui, d'ailleurs, même s'il faut manger à la fin du mois. Mais voilà, moi, je fonctionne comme ça et ça marche très bien.
Pourquoi ne pas racketter tout le monde comme ça?
Parce que je vois pas l'intérêt, en fait.
Il faut se faire du fric, à un moment donné.
C'est vrai. Merci, Émilie. Merci. Non, ne les écoutez pas. Regardez, vieux. Regardez déjà comment ils sont gaulés, oubliés.
C'est quoi le dernier? J'irai voir sur votre site, le dernier conseil lecture.
Bulle Dop sur YouTube. Merci beaucoup, Émilie, d'être venue aujourd'hui. Tanguy Pastureau, bonjour.
Bonjour,
président chinois Xi Jinping est en visite chez nous.
Oui, il est arrivé hier à Nice, de la ville de Christian Estrosi et de la tourte à la blette. Et là, il est à Paris. La ville n'est plus qu'un immense tapis rouge parce que nous, on les charge de pompe des despotes friqués. On est number one. Alors ce soir, dîner d'État à l'Élysée avec que des gens en fin de parcours. Alain Delon, Raph Farin et Hélène Rollès.
On en parle après les infos. C'est la bande originale. Bienvenue si vous vous nous rejoignez avec Lina Kadobudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Tom Villa, Alexis Le Rossignol et notre invité Guillaume Gabriel.
Guillaume.
Dixième anniversaire de l'émission, ça peut pas faire de mal. Les femmes écrivains pour ce nouveau tome, le cinquième dans cette collection, avec Annie Ernaux, Marguerite Yourcenar, Simone de Beauvoir et Marguerite Duras. Des textes que vous avez lus, on a bien compris aussi que vous en étiez l'initiateur. C'est vous qui choisissez, parce que au milieu, évidemment, de toute une bibliographie, il faut choisir. Et ce choix est délicat. Est-ce que vous relisez beaucoup d'œuvres avant de choisir, ou est-ce que vous ne comptez que sur votre mémoire?
C'est à la fois la mémoire et puis
de Cagne.
Non, heureusement. Non, mais en fait, moi, j'ai lu pendant ce temps-là, puis après, j'ai lu plus tard aussi. Mais non, c'est ce que je sens aussi du monde, de ce qui m'intéresse, et puis des choses où des oublis. Ouais. Je dis oh là là, mais on a jamais lu tel auteur. Mais non, il faut absolument le lire. Enfin voilà, ça se fait à l'instinct.
Et des auteurs que vous n'avez jamais lus, éventuellement, vous pouvez les programmer dans l'émission.
Oui, ouais. Bien sûr. Ben là,
comment les découvrir si vous ne les connaissez pas?
Ben je les découvre en direct.
Ouais. Non, mais comment se dire, il faut qu'on lise telle œuvre si vous ne connaissez pas l'œuvre?
Parce que j'en ai entendu parler, parce que quelqu'un, parce que j'en ai entendu parler, ou j'ai lu un article, ou
une curiosité.
Oui, une curiosité. Il y en a beaucoup, heureusement. Ouais. Ah oui, heureusement. Mais j'ai découvert des auteurs merveilleux grâce à l'émission, comme ça.
Que pour vous, un livre doit apporter quelle qualité ou quelle ouverture d'esprit?
Ce que j'aime, c'est à la fois ce qui est raconté, mais surtout comment c'est écrit. Ça m'ouvre quelque chose sur le monde. Parfois un style extrêmement bref, extrêmement ciselé, parfois quelque chose de très quotidien, mais en même temps une poésie qui s'en dégage. Parfois au contraire une longue litanie où le rythme tout d'un coup devient là, on se rend compte en le lisant à haute voix qu'on a pratiquement le même rythme cardiaque que l'auteur.
Alors justement, la lecture, l'intonation, la respiration, la ponctuation est une nouvelle forme d'écriture. Comment être sûr qu'elle corresponde aux souhaits de l'auteur et que ce ne soit pas votre vécu, votre interprétation, votre sensibilité qui fasse que ce soit différent?
C'est de toute façon la rencontre des deux, et heureusement, un livre appartient uniquement au lecteur à partir du moment où c'est lui qui le lit. Il y a plus de, je pense pas qu'un livre appartienne à l'auteur une fois qu'il est dans le commerce. Ça y est, il appartient au lecteur.
Et vous ne cherchez pas à interpréter quand il y a des dialogues, par exemple, à jouer avec le...
Je le fais malgré moi, parce que je suis comédien. Donc ouais. Si, j'interprète, mais j'interprète selon le
sentiment immédiat.
Oui, exactement. Mais parce que, en fait, quand Philippe Val m'a proposé, quand on est tombé d'accord sur le contenu de l'émission, quelqu'un m'a dit, c'est très France Culture quand même ton truc. Et donc j'ai écouté les deux antennes, et en écoutant France Culture, j'avais le sentiment qu'on me livrait la conclusion d'un travail déjà digéré. Mmh. Alors qu'en écoutant France Inter, j'avais un sentiment d'instantanéité. Je me suis dit, mais c'est comme ça qu'il faut que je démarque la chose. Et donc, il faut que je sois instantané. Il faut que je découvre en direct pour que l'auditeur le découvre aussi.
Ils vont bien le prendre, ça. Donc France Inter, c'est le goût. France Culture, c'est l'après-digestion.
Mais
non, gérez ça comme vous le sentez.
Non, mais les radiophoniques de France Culture sont superbes.
Oui.
Mais c'est vrai qu'en effet, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le rapport à votre voix. J'ai pas la sensation d'avoir une interprétation qui est préparée, qui est calculée. Non. Il y a quelque chose d'hyper fluide. C'est une partition musicale, en fait, ce que vous faites.
On sent le manque de préparation.
Mais non, c'est absolument l'imparfait, ce qui est génial.
L'imparfait que je travaille.
L'aspérité, la différence.
Et puis là, aujourd'hui, on parle des auteurs féminines, mais quand on voit tous les auteurs que vous avez parcourus ces 10 dernières années, c'est hyper éclectique. Bien aussi, sûr. C'est ce qu'il faut dire. C'est qu'on peut à la fois retrouver du Balzac, du Chateaubriand, du Zola... la littérature étrangère aussi,
beaucoup
de Russes, du Philip Roth,
beaucoup
aussi.
De littérature américaine.
Et puis on trouve aussi la saga Harry Potter.
Voilà.
Voilà. Aussi. Donc c'est aussi une façon de montrer que ça peut être hyper éclectique.
Là, la semaine prochaine, il y a Je t'aime affreusement,
oui.
qui est un livre qui est écrit par mon assistante, par Estelle Gap.
Estelle Gap, oui.
Sur une lettre imaginaire extraordinaire de la fille de Marina Tsvetaeva à sa mère.
Une lettre d'outre-tombe.
Oui. Ouais. Mais c'est merveilleux comme roman. Et après, moi, c'est vrai que j'essaye surtout de défendre la fiction. On a parlé là de ces femmes qui
faut dire
qui...
pardon, c'est pas simplement une collaboratrice de France Inter qui écrit un livre. Elle a été formée au théâtre, formée
oui exact
à la philosophie. C'est pas non plus
oui non bien
c'est
sûr
pas des, c'est pas c'est une pas personne comme nous quoi. Ah, c'est ça qui veut dire
c'est quelqu'un genre vraiment des petites gens.
C'est quelqu'un cette personne.
C'est quelqu'un cette personne. La phrase.
Et un cerveau. Il y a un cerveau quoi derrière ce nom.
Non mais ça me fait du bien aussi. La lecture est importante pour moi au-delà de des expériences vécues, des traces autobiographiques qu'il peut y avoir dans les livres. J'aime surtout la part fictionnée, tout ce qui est la subjectivité totale. Je la trouve importante. Aujourd'hui, on est un peu obsédé par la véracité des choses. Je préfère de loin la crédibilité. Je préfère y croire, que ce soit vrai ou pas, que parfois, il y a des choses vraies où je m'en fous d'y croire, en fait.
Ouais. Guillaume Gallienne, ça peut pas faire de mal et ça fait même du bien. C'est chez Gallimard, Les Femmes Écrivains, pour le dernier volume. Mais il y en a quatre autres, toujours en vente libre. Le dernier, donc, avec Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar et Annie Ernaux.
Et une préface de Léla Slimani.
S'il vous plaît. Voici Tanguy Pastureau. Tanguy, le président chinois Xi Jinping est en visite en France.
Oui, et comme à chaque fois qu'il vient, c'est un bordel noir. Quand il est à Paris, on ferme les Champs-Élysées. Des types à Vélib traînent au bout d'un fil des boudets mentales pour attirer les rats au-delà du périph. Tandis qu'Anne Hidalgo tweet des banalités en mandarin. Ce qui la change de son quotidien qui consiste à tweeter des banalités en français. Mais Jinping, derrière son allure de dictateur répressif, est un animal fragile. Psychologiquement, c'est Bambi dans le quart d'heure qui a suivi la mort de sa maman. Il a vu les images du Fouquet en train de cramer. Au départ, il a pensé à une crème brûlée qui serait partie en torche et aurait mis le feu au resto. Parce qu'en Chine, les émeutes n'existent pas, ni les manifs. Même un type qui dit « pardon, je suis un poil en désaccord avec la politique gouvernementale », on le fout en tôle. Et il a vite compris qu'à Paris, mais c'était l'anarchie. Alors qu'à Nice, où il a posé son avion hier, le pire qui puisse arriver, c'est de voir Estrosi en legging faire son jogging au soleil levant. Or, une fois qu'on s'est lavé les yeux 30 fois, on arrive à surmonter cette vision. Dont Jinping est arrivé hier, l'attendait à la sortie de l'avion, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, petit corps tristounet, comme on l'appellerait dans le milieu du slam, s'il en faisait. Il est allé à Monaco, la capitale mondiale du brosouf et de la rétrobronzée, où les habitants ont vécu un calvaire. Pour raison de sécurité, il est interdit de se baigner, de faire des sports nautiques, des activités sous-marines et même au bateau de mouiller. Seul le prince Albert, à un moment, a mouillé très légèrement quand Jinping lui a dit que Huawei, son géant des télécoms, allait tester la 5G à Monaco. Et la 5G, c'est très rapide. En 4 secondes, on peut envoyer 200 emojis caca à sa mère coinceaux pour tenter de la faire clamser d'une attaque et palper l'héritage. À Monaco, l'héritage moyen, c'est l'équivalent de 160 années de PIB de la Pologne. Albert et Charlène ont donc déjeuné avec Xi Jinping, puis ce dernier a rejoint Macron vers Nice, où ils ont dîné. Il y avait aussi les deux premières dames, qui ajoutaient l'une à l'autre forme une deuxième dame. Ensuite, les Jinping sont rentrés à leur hôtel, le Negresco. Alors, un établissement sympa, sauf que le personnel est très invasif. Hein. Tout va bien, monsieur. Laissez-moi m'occuper de vos bagages, madame. N'hésitez pas, nous sommes là. Enfin, on a envie de leur dire, oh, les bolos, ça va. Inventez-vous une vie. Hein, on m'enlèvera pas de la tête qu'un Formule 1 dans lequel on rentre tout seul avec ses Mastercard, c'est mieux quand on n'a pas envie de causer. Le matin, on appuie soi-même sur la machine à café. Et si on veut un croissant, il faut faire sa pâte avec l'eau du WC. Ça, c'est de la prestation. Alors, détail insolite, Xi Jinping transporte avec lui son lit. Hein, c'est une sorte d'escargot. Sauf que si vous lui jetez du gros sel dessus, il se met pas à dégorger, mais crie à ses gars de vous trucider. Il a déboulé au Negresco avec son matelas et son sommier. Chez nous, un communiste qui fait ça, Fabien Roussel, le boss du PCF par exemple, on le dégage de l'hôtel et il se retrouve à dormir sur la plage de Nice. À 6h05, il est là pour voir passer Estrosi en train de courir. Mais Xi Jinping est un communiste très riche, donc on lui passe tout.
Et alors, quelle est la suite ? du programme de cette visite
d'État. Xi Jinping est à Paris aujourd'hui avec sa femme Peng Lian, et ce soir ils dîneront à l'Élysée dans le nuage de particules fines, avec dans leur champ de vision le chien Nemo qui se gratte. C'est un enfer. Heureusement, Macron a prévu un cadeau pour Xi Jinping. La dernière fois, il lui avait offert un cheval de la garde républicaine. Donc ils se sont dit, comment faire plus gros que ça? À part lui refiler Bob, le rhinocéros du zoo de Vincennes en train de crever d'ennui, c'est impossible. Macron s'est donc tourné vers un bouquin, mais pas un truc chouette comme le dernier Guillaume Musso, non. Un livre d'occasion, la première traduction en français de texte de Confucius, le Mathieu Ricard du pauvre. Il a dû envoyer Benjamin Griveaux chez Gilbert Joseph, l'autre a lu 4 boules et billes en tout, ça se ressent quand il parle. Hein. Bah, il était largué, il a confondu Confucius avec Tubitus, la BD, il a pris Confucius. Puis ce soir donc, ils dîneront avec des stars débauchées pour cirer les pompes du glorieux despote, Alain Delon, hein, qui se partage les dictateurs avec Depardieu, Jean-Michel Jarre, Raffarin, le seul panda rose, et même Robert Rue, un ancien coco looké comme les nains de Blanche-Neige, même si lui a plus connu les soirées pince-fesses que les journées à la mine. Mais surtout, oh joie simple, il y aura Hélène Rollès d'Hélène et les Garçons, la chanteuse préférée de Xi Jinping. Ah voilà, pour vous dire un peu le niveau du gonze. Hein, pour lui, Alizée, c'est du baroque. Alors à sa décharge, comme on dit chez les éboueurs, je précise qu'Hélène Rollès est aimée de la Chine en général. Ouais. Elle continue à y faire des concerts géants et participe à des shows télé. Si le hasard vous avait fait chinois, Nagui, vous feriez des taratata avec Hélène Rollès, en featuring avec Dorothée sur un hommage à Luc Perry de Beverly Hills. Hein, et le lendemain, Luan Xi Ernot, la Delphine Ernot, boss de France Télé chinoise, c'est la même chose mais avec du blé. Hein. Vous direz, Coco, hier, t'as fait 400 millions de téléspectateurs, ce qui en Chine est une audience sympa, mais pas top. Avec, préciserait-elle, 50% de PDA sur la ménagère de moins de 4 ans et demi. Hein, au-delà, elle ne regarde plus la télé, elle bosse. Alors, petit espoir dans Hélène et les Garçons, tous les soucis se réglaient à la cafette du Bahut. Je me souviens de la fois où Lely avait trompé Nicolas avec José qui sortait avec Béné. Hélène avait payé sa tournée de jus de poire. Et ben c'était fini. Hein, donc là, Macron et Xi Jinping sont un peu tendus niveau business. La Chine veut ouvrir une nouvelle route de la soie afin d'inonder l'Europe de produits. Macron est réticent. Avec Hélène au milieu, ces gens vont peut-être enfin se parler.
Merci Tony Fassio. La bande originale.
Tanguy, qu'on retrouve cet été au Festival d'Avignon, au Théâtre Paris, du 10 au 19 juillet.
À propos des spectacles et de la lecture en public, c'est-à-dire avoir une salle de théâtre, ce que fait Fabrice Lucchini souvent, ce que font beaucoup de comédiens. Fabrice, je ne crois pas qu'il ait le texte,
temps,
voilà,
ouais.
C'est de l'interprétation.
Mais à la Maison
de
la Poésie, il y a des soirées organisées comme ça. Ouais.
Vous vous êtes déjà prêté à cet exercice?
Oui, je l'ai fait un peu, oui.
Et en quoi c'est différent de le faire sur scène en public et de le faire à un micro, les réactions, la notion de direct justement et pas pouvoir se reprendre?
Oui, c'est un peu plus joué quand même. Il faut le jouer un peu plus, il faut y aller un peu plus. Là, dans l'émission, c'est vraiment c'est pour le micro, donc il y a un rapport à l'auditeur qui est plus intime.
Et puis on peut jouer forcément avec l'intonation de la voix, on n'est pas obligé de porter.
Forcément, une salle, faut y aller quoi. Faut envoyer du lourd, mais non, faut un peu plus l'interpréter. Ouais. Dernièrement, on est allé avec la Comédie Française faire des lectures en Israël, et notamment j'ai lu des passages de Proust. J'en ai fait un peu des caisses. Je me suis amusé.
Écoutons un autre extrait donc de Ça peut pas faire de mal, les femmes écrivaines avec Simone de Beauvoir, Marguerite Yourcenar, Annie Ernaux et par exemple ce texte de Marguerite Duras.
Une nouvelle habitude s'est installée. En fin d'après-midi, Monsieur Zhou emmène toute la famille en voiture chez le père Barthes pour se divertir. C'est le moment que choisit Suzanne pour se préparer. Il avait déjà donné à Suzanne une robe, un poudrier, du vernis à ongles, du rouge à lèvres, du savon fin et de la crème de beauté. Il s'amenait, sortait un petit paquet de sa poche et le tendait à Suzanne. « Devinez ce que je vous apporte, » disait-il avec malice. Suzanne prenait, ouvrait. « C'est une drôle d'idée, » disait-elle. Voilà en général comment ça se passait.
Les gens veulent des enceintes connectées à la maison. Moi, j'aimerais avoir Guillaume Gallienne à la maison.
Connecté.
Ouais. Guillaume, lis-moi cœur de chien de Bulgakov.
Il faut commencer par dis Guillaume.
Dis Guillaume.
Dis Guillaume.
Dis Guillaume.
Ok, Guillaume.
Ok, Guillaume. Plus fort, Guillaume. Ok.
Là, c'est drôle.
C'est
pas le même objet connecté.
C'est vraiment, mais je suis salissée tout.
Là, c'est marrant. On a l'impression qu'il y a presque du Jeanne Moreau là, dans ce dernier extrême, mais c'est à cause, j'imagine, du film de Jean-Jacques Hano. À mon avis, j'ai dû faire le lien, faire un transfert entre Duras et Jeanne Moreau. Et alors, il a voulu lui prendre la robe. Et c'est surréaliste, c'est non, c'est drôle. Et...
Tom, quand vous enregistrez, il y a l'ambiance, il y a déjà des bruitages un petit peu. Non, c'est à blanc.
Non, c'est Bibi. Tout seul dans son studio.
Ouais. C'est Bibi. tout seul dans son studio. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et vous allez voir la différence avec celle de Daniel Morin.
Les infos sur France 2. C'est du sérieux.
Un peu mon neveu.
Ah oui. Vendredi soir, le JT de la première chaîne publique s'est intéressé au phénomène croissant de la sieste sur le lieu de travail. Alors France 2 s'intéresse au sujet, c'est bien, mais figurez-vous, mesdames, messieurs de la télé publique, que sur la radio publique, nous, ça fait longtemps qu'on s'est penché sur le sujet. Ça fait un moment que non seulement on s'intéresse à la sieste au travail, mais en plus, on la pratique. Eh ouais, ici à Radio France, on est dans une quasi-maîtrise du sujet.
Total.
Je pense même qu'on n'est pas loin, dans certains cas, de pouvoir envisager un sujet d'enquête, non plus sur la sieste sur le lieu de travail, mais sur le travail au milieu de la sieste. Moi, je le vois, le matin entre 7 et 10, c'est devenu un réflexe, je pionce. Comme un clébard, je tourne en rond deux fois sur moi et je m'affale et je m'endors. Tout le monde s'y est mis. Tom Villa, Tom qui travaille comme un forcené entre la télé, le cinéma, la radio, il profite de chaque instant pour récupérer. Quand il est sur son scooter sur le périph, il se cale à gauche sur la glissière, il s'endort, il se laisse glisser. Quand il arrive à hauteur de la sortie Pont-de-Sèvres, sa montre GPS vibre trois fois, il se réveille, il donne un grand coup de guidon à droite et hop, il arrive requinqué et tout frais à la radio. Tanguy Pastureau, c'est le top en matière d'optimisation. Il se réveille à 11h55, à midi 12, il prend une grande respiration et c'est parti pour 5 minutes en apnée. Midi 20, de retour à l'arrière de son taxi, allongé sur la banquette, il roupille comme un mort. Bon, celui qui est nul, par contre, en sieste, c'est Nagui. Zéro.
Ouais, je sais pas,
zéro le mec. Hein. Il arrive le matin, il a déjà enregistré 50, n'oubliez pas les paroles, et assisté aux répétitions du Taratata spécial. Quelque chose. À midi 31, il est à l'arrière de sa moto-taxi, direction un studio pour tourner un truc avec Michel Simès, un spécial Votre Corps. Je sais pas quoi. Pendant le trajet, il pourrait en profiter pour roupiller un peu. Eh ben non, il optimise en mangeant son sandwich tofu quinoa roquette, le tout arrosé d'un smoothie gazon bambou. Eh oui, monsieur fait attention. Le soir, avant de rentrer chez lui pour dîner en famille 17 minutes, il fait une petite promo pour une bonne action spéciale. J'en sais rien. Après dîner, il enregistre ses 150, tout le monde veut prendre sa place. Il rentre dormir de 5h30 à 5h45, puis c'est l'heure du réveil. Un jus de cactus, une tartine de colza et hop.
Céleri.
Entretien, oui, céleri, les jours de fête. Entretien physique où pendant 1h30, en équilibre sur l'orteil, muscles tendus et prépare la BO en regardant un film de l'œil droit, lisant un livre de l'œil gauche. Toujours pas de sieste. Oh la vache, mais me direz-vous, comment et où a-t-il trouvé le temps de faire 4 enfants? disons que quand je peux filer un coup de main, voilà, je peux pas en dire plus. Tu peux toujours compter sur moi, mon Agui. Allez, à demain.
Merci. France Inter, la bande originale. Avec Nagui. Alors également, emploi du temps très chargé pour Guillaume Gallienne. Vous êtes sieste ou pas, vous?
Oui, c'est vrai. Des micro-siestes, 20 minutes. Oui. Ah oui, j'en ai besoin.
Un cycle, et vous pouvez le faire assis, vous avez besoin d'un...
Non, assis non, quand même allongé, plutôt dans le noir, mais je...
Comme Xi Jinping, vous avez besoin de votre propre livre, votre propre sommier.
Oui, enfin je vais dans ma loge, mais sans Xi Jinping. Mais...
D'accord. Loge, justement, en ce moment, la Comédie Française, les damnés qui devaient s'arrêter reprennent, continuent, ou...
Non, ça continue, on joue jusqu'au...
Je pensais que ça devait s'arrêter fin janvier, ou plutôt que ça, non?
Non, mais on vient de le reprendre, ouais, mais d'accord. On l'a arrêté pendant un temps, mais c'est la règle de l'alternance salle Richelieu. Là, on joue jusqu'au 2 juin et ensuite en tournée à Londres au Barbican toujours en juin.
Ça avait été créé au Festival d'Avignon, hein, c'est ça?
Ouais, absolument. En 2016, mise en scène de Ivo Vanov avec en fait, il faut quand même expliquer les damnés, c'est adapté du scénario de Visconti, du film de Visconti, et vous êtes sur scène aux côtés d'acteurs que j'adore comme Loïc Corbery, comme Christophe Montenegro. Adeline Dermy, votre Marilyn,
oui,
par
Elsa
exemple.
Oui, Elsa Le Poivre, Denis Podalides, oui, plein.
C'est une manière de chambouler un tout petit peu ce qui se passe à la Comédie Française, cette création.
Ah oui, entre autres. Enfin, il y a celle-là, il y en a plein d'autres.
C'était inimaginable il y a 5 ou 10 ans.
Oui, mais ça, c'est Eric Ruff qui a inscrit notre nouvel administrateur qui a voulu vraiment essayer de montrer l'alpha et l'oméga du champ de possible de la troupe en invitant Ivo Vanov ou Thomas Ostermayer qui récemment a mis en scène une nuit des rois extraordinaire, assez trash mais merveilleuse et très drôle. Et puis aussi de de reprendre, par exemple, Le Malade Imaginaire dans la mise en scène de Claude Schwartz. C'est vraiment à chaque fois des... Il y a Lucrèce Borgia, mis en scène par Denis Podalydès, et puis il y a Les Damnés. Voilà. Il y a Fanny tout... Alexandre, là, ouais. qui est merveilleux.
Ça donne tout... un souffle, quand même, tout d'un coup, ouais. aussi à la Comédie du Français. Ces collaborations extérieures, cette envie de se renouveler pour mieux revenir aussi aux classiques, ce que c'est très, très bien faire la maison.
Voilà, exactement. Et puis, avec des propositions de metteurs en scène très très audacieux.
Ouais. Ouais. Ouais, c'est ce que fait Ivo Van Hove, c'est de mêler l'image d'oser une caméra, des gros plans, ce qui doit changer totalement le jeu d'ailleurs sur scène, parce que d'un coup, tout n'est pas, c'est pas comme un concert de rock où tout est filmé, passé en grand écran, comme ça tout le monde peut voir tout le monde, mais il y a certains moments de la pièce où la caméra
filme autre chose même.
Est comme un acteur indépendant. Une vision différente, mais aussi ça doit vous changer puisque vous allez
ça change aussi parce qu'en plus on est microté, donc déjà il y a pas la projection. Après, ce qui est intéressant dans Les Damnés, c'est surtout l'écho que cette pièce a aujourd'hui avec l'actualité. C'est ça surtout qui est très intéressant. Le sujet, c'est-à-dire comment la barbarie peut s'immiscer en quelqu'un en deux secondes. Comment on peut devenir barbare en un rien de temps, juste en plus
c'est une famille en une phrase. C'est une famille d'industriels allemands qui, par intérêt financier, va épouser la théorie nazie.
Oui.
Ça trouve écho d'ailleurs avec l'actualité, puisqu'il y a une famille richissime allemande qui a reconnu avoir été liée avec le passé nazi.
Dans les années 30 pour aider Hitler.
Voilà. Et qui va faire des dons de je sais pas combien de dizaines de millions d'euros pour laver ce passé.
Quoi que ce soit. Mais bon, c'est déjà ça.
Mais c'est vrai qu'elle a reconnu cette.
Mais ce qui est fou, c'est surtout, c'est à partir de petites passions nulles qu'on peut tout savoir, comme la vénalité ou l'orgueil ou la peur. Enfin, voilà.
C'est une pièce magnifique. C'est une pièce magnifique.
Beaucoup de projets, Guillaume Gallienne. Vous prêterez votre voix à Royal Corgis.
Ouais, qui sort là bientôt. C'est très drôle. C'est l'histoire du chien préféré de la reine d'Angleterre. Et pendant une visite officielle de Donald Trump, il lui mord les couilles. c'est cadeau, quoi. cadeau. C'est très drôle.
Vous serez à l'affiche du Dindon de Jalil Lesper aux côtés de Danny Boone. Ça sera au mois de septembre. On en reparlera, j'espère, ensemble à ce micro. Encore d'autres projets, d'autres envies. Enfin, vous allez jouer aussi au Français sous la direction d'Eric Ruff. Ça sera la vie de Galilée.
Ça, c'est en juin. La vie de Galilée. Je joue le pape. En toute simplicité. Voilà, après avoir joué la fille du pape, maintenant je passe au père.
Et le chien de la reine.
Exactement.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oh, bien sûr. Désolé déjà pour nos auditeurs un peu idiots qui ont cru que Guillaume Gallienne avait des psys pour nettoyer sa maison. Alors quand il parlait de faire le ménage, il parlait de son esprit, de son âme. Guillaume est un artiste. Enfin, ses nettoyages comme ses nourritures sont spirituels. Alors, messieurs. Désolé pour nos auditeurs qui attendaient de Guillaume Gallienne une façon, une manière, une méthode pour appréhender la littérature. Quand ils ont entendu Guillaume dire « Je sais pas, je prends ce que je ressens du monde », ils ont dû être un petit peu perdus. Désolé les gars, je sais que ça manque de précision, mais Guillaume est un artiste, il n'est pas comptable. Désolé pour les assistants de Guillaume Gallienne, qui ont avoué avoir un petit peu de mal. On l'a découvert ce matin, travailler dans un climat de je m'en foutisme échevelé avec un patron qui n'en rame pas une. Oh, ça va, hein. Connais pire, venez travailler avec nous, vous allez voir ce que c'est. Désolé enfin pour Tom Villa qui s'est moqué de Guillaume Gallienne et de son mépris pour l'œuvre de Petit Ours Brun. Alors oui, peut-être, mais on est quand même face à la voix française de l'ours Paddington. Excusez du peu.
C'est vrai, la classe. Et la réalisation, Guillaume, je vous ai pas demandé, vous avez des projets, des envies? On a parlé de vous pour Dans l'ombre.
Pour Dans l'ombre, non, pas du
un
tout.
Polar.
Je vais réaliser normalement un film anglais. Des producteurs anglais m'ont apporté un scénario magnifique sur le traumatisme crânien, pas drôle mais très touchant, que je dois réaliser l'hiver prochain. Et puis je commence à peine, mais je commence une adaptation en série télé de La Recherche du Temps Perdu dans les années 80.
Génial.
Parfait. Voilà. À 18h, donc tous les samedis sur France Inter, ça peut pas faire de mal. Et puis maintenant chez Gallimard, le 5e volume de cette collection pour fêter le 10e anniversaire de l'émission. Les femmes écrivaines, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar et Annie Ernaux. Merci pour être qui vous êtes.
Merci à vous.
Guillaume
merci.
Gallienne.
Merci beaucoup.
Demain, Ryan Bensetti et Lanissa Chola seront nos invités. Tout de suite, les carnets de campagne, Philippe Bertrand et puis même... Les titres, puisqu'on est à la bourre, pardon.